rêver, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h exactement. Nous sommes le mardi 21 juin, je vous le confirme. Et c'est aujourd'hui l'été. C'est l'été! Eh bien, voilà, on est heureux, on est content, c'est l'été, enfin. On a eu un avant-goût hein, la semaine dernière, on n'en demandait pas tant. Hein. 42 degrés à Paris, vous imaginez, samedi dernier. Ah oui, on a eu un avant-goût. Alors imaginez, là, on est en été, qu'est-ce qu'il va faire? C'est fou, ça, on va griller. Hein. Ah oui, avant l'heure, hein. Ah, c'est ça. On a un avant-goût de l'enfer, hein. Comme ça, vous ne faites pas de bêtises. Bienvenue à toutes et à tous, quelle joie, quel bonheur de vous retrouver. Oui, et puis ce soir c'est la fête de la musique, paraît-il. Faites attention quand même, hein, parce que, bah oui, la circulation, les gens, l'alcool, tout ça, faites très attention. Enfin moi si j'étais vous, ce soir je m'abstiendrais de sortir et j'écouterais Beurre FM, bien sûr. Voilà, la meilleure des radios, avec le meilleur qui que quoi dont où, le meilleur des aumôniers. Moi je vous le dis, il est là. Vous avez été nombreux et nombreux à le redemander. Il est là, il s'est mis à disponibilité pour vous aujourd'hui. Merci Yacine, monsieur Yacine Tarr, merci.
Merci à vous, hein. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On est presque en famille ici.
C'est la famille. C'est la famille
Beurre
FM.
Quand on rentre ici, on est vraiment à l'aise. Vraiment, on est bien.
Mais c'est la famille Beurre FM. En tout cas, bienvenue dans la famille Beurre FM qui s'agrandit grâce à vous, monsieur l'aumônier. Donc, Yacine, on se tutoie.
D'accord.
Puisqu'on est en famille.
Voilà.
Hein, c'est plus sympathique. Voilà, exactement.
D'accord.
Donc, Yacine était déjà venu nous rendre visite il y a environ 2 mois. Et cette émission a beaucoup marqué les esprits, puisque vous avez été nombreuses et nombreux à le redemander. Il est là ce soir, aumônier de prison. Eh bien, il va vous dire de quoi il s'agit. Il va vous parler de sa fonction. Et si vous avez des questions, parce que nous sommes très nombreux à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière les murs, comment ça se passe. Ils sont très rares, les personnes, à y avoir accès. Et Yacine, eh bien, il fait partie de ces personnes rares, justement, qui peuvent pénétrer dans ces lieux. Alors, je sais qu'on est très écoutés aussi des personnes qui sont malheureusement incarcérées. Arbitak sarham inshallah. Voilà, mais avant, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas, bien entendu, les courageuses et les courageux du soir. Vous qui travaillez de nuit, une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. On va dire bonsoir à Giovanni qui est là. Pour vous aussi, qui était heureux hier de me retrouver.
Eh oui.
On s'est manqué, hein, Giovanni, hein.
Ah non, oui, c'est ça.
Ah, on s'est habitué, hein, mon petit Giovanni.
Ouais, oui, on est ensemble tous les soirs, puis d'un seul coup, on se perd, Qu'est-ce que je dois dire, hein?
Ben ouais, t'étais tout tristounet, tu m'as dit.
Ben oui.
Ben écoute, moi aussi, tu m'as manqué, ben voilà.
Le soir, j'étais à la maison, il était 21h, j'ai
écouté. Tu écoutais Beurre FM.
Du coup, j'écoutais, obligé, pour me consoler.
Ah voilà. Et moi, je pensais à toi aussi. Et les auditeurs aussi. Et tu sais que... Alors, j'espère que je n'ai pas offensé. Oh mon Dieu, je me repens. Je n'ai pas offensé Yanis, parce que à plusieurs reprises, eh bien, je l'appelais Giovanni. Il n'avait pas l'air très content. Il me regardait avec un œil noir.
Oh, c'est chien et chat, toi, Yanis.
Bah oui, parce que j'appelle Giovanni. Mais bon, c'est par habitude. Mais j'aime bien mon petit Yanis aussi. Moi, je vous aime tous. Hein. On est une famille ici.
Yacine aussi.
Hein, Yacine. Hein, n'est-ce pas? Yacine, il fait partie de la famille. Ça y est, maintenant.
Bien sûr.
Eh bien, ça y est, on a des appels, Yacine.
Ah, c'est gentil.
On a Sabrina de Grenoble, Malika du Kremlin-Bicêtre, Kavit, notre Turc à nous qu'on aime. Il a la voix du Turc. Tu sais, il parle comme ça. Oh, oh, oh. On va l'accueillir également. Mais avant de donner la parole à nos amis qui sont en attente, Yacine, alors, en quoi consiste la fonction d'un aumônier de prison?
Alors, comme je l'ai déjà expliqué, hein,
oui.
Et voilà, je...
Mais beaucoup n'étaient pas peut-être présents ce soir-là.
Alors, quel est le rôle de l'aumônier? Alors, l'aumônier, il est attaché à un corps ou un établissement, que ce soit un hôpital ou une prison, une école ou même l'armée. Dans l'armée française, il y a des aumôniers, c'est-à-dire qui se déplacent avec eux. Hein, ils se déplacent dans le, ils sont au Tchad, ils sont.
Mais pourquoi? Ah bah, c'est quoi leur rôle?
Il y a des soldats musulmans.
Oui. Ça touche forcément la religion.
L'aumônier, c'est un ministre de culte. Hein, en clair.
Ah, voilà.
C'est un ministre de culte. C'est-à-dire, il est là pour accompagner les soldats pour un aumônier militaire.
Oui.
Et pour les aumôniers de prison, ils ont là pour accompagner les prisonniers pour apporter un peu, pour leur apaiser un petit peu leur morale. Mmh. Et même le culte, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et j'aimerais bien en parler de ce phénomène, de cet engouement dans la religion et tout ça. Mais je veux pas rentrer trop dans les détails. Je veux expliquer aux gens. Je veux expliquer aux gens que la religion c'est pas tout. C'est-à-dire, il faut pas croire que. Par exemple, je rentre dans le sujet.
Oui, Yacine, c'est très intéressant, c'est bien. C'est ton émission et tu es là pour ça.
Je rentre dans le sujet. C'est-à-dire, on entend toute la journée, matin et soir, religion, hadith, Coran, machin et truc, et on oublie la vie. On oublie la vie. Dieu nous a créés pour vivre bien, ya ibadallah. Nasi, Rabbi khalaqna bach n'aishou mleh. Mashi bach n'aishou mashi mleh. Lokan khalaqna bach n'salli ou barak, il va créer un grand stade où on ne fait que prier. Il faut mettre ça dans la tête.
C'est bien.
Il y a dans les prisons, certains prisonniers, c'est-à-dire, c'est mon destin.
C'est Dieu qui m'a écrit. Ce passage prison.
Voilà, le passage.
C'est lui qui l'a poussé à la faute.
Mais non, c'est ta faute.
Ben oui.
Tu as fait une bêtise.
C'est de se déresponsabiliser.
Voilà, c'est la déresponsabilisation. Mm-hmm. Les prisonniers, vous avez fait une bêtise, vous assumez. Quand vous assumez votre responsabilité, vous pouvez vous reconstruire. Sinon, t'es pas trop l'arabe, on sort les vocations. J'ai pas dit que c'est mal. J'ai pas dit si ça peut te ramener un réconfort personnel. Tant mieux, mais c'est pas ça. La religion, il faut savoir, elle est là pour encadrer. C'est tout. Elle est là pour encadrer la personne. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Vous aimez une femme, tu te maries avec, c'est tout. C'est pas temps d'aller faire. Tu veux de l'argent, tu travailles, honnêtement. C'est aussi simple que ça.
Mmh. Il faut c'est pas des codes de vie sur Terre.
C'est des codes de vie.
Voilà, c'est-à-dire, dans la société.
Monsieur Mouhna, où je vous dis, où je le répète, j'en ai marre. Yana Mar,
ça fait plaisir de l'entendre, non, hein, vraiment, bravo.
J'ai écouté votre émission de vendredi.
Ah oui, et puis mes vidéos aussi.
Je m'excuse de
c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bravo, Yassine.
Yana Mar, Yana Mar. Fais l'arrasse de Dine, fais le fin de Dine. Yana Mar. Même le prophète lui-même, il dit ne parlez pas trop de religion, les fidèles, ils vont être fatigués. Après, ils ne vous entendent plus. Ils vous entendent plus.
Oui.
Ils vous banalisent cette religion que les gens, c'est plus crédible. Et c'est ça le problème. Laissez la religion pour les hommes de science. Les gens, tu as besoin de savoir quelque chose, va voir un imam, va voir un spécialiste. Ne va pas voir ton voisin qui connaît rien.
Ou sur internet,
le Hajj Google qui m'a ramené femme qui va, c'est ça notre problème. Alors essayez, ya ibadallah, soyez conscients, vivez votre vie. Rabbi khalaqna bach n'aishou mleh, din khalih les spécialistes, les mécaniciens ils réparent la voiture, le médecin.
Et justement, pour reprendre ce que tu dis, Yacine, je comprends ta colère, et nous en sommes tous là, et c'est une colère justifiée. Eh bien, c'est vrai que beaucoup mettent beaucoup le fait religieux en avant, donc c'est à toutes les sauces, et la religion musulmane est devenue la risée.
C'est la risée.
La risée. C'est à toutes les sauces. On entend, même parfois, pour n'importe quoi jurer sur le Coran de la Mecque, comme s'il y avait plusieurs Corans, sur le Coran de la Mecque. Alors, il y a des jeunes, alors, ils sont à l'écoute, ils vont trafiquer dans la drogue, et c'est très mauvais, on cesse de leur répéter, hein, ça c'est haram par contre, hein, parce que c'est envoyer les gens à la mort. Et qui vont jurer que, elle est bonne, c'est de la bonne qualité, voilà, pour la vente, et elle est de bon prix, et en disant, je te jure qu'elle est bonne, elle est très bien, celle-là, sur le Coran de la Mecque. Alors, donc, il y a un anachronisme, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je pense que dans les esprits, tout est mélangé. Tu l'as si bien dit, les chers Google, sur Internet, on leur raconte n'importe quoi, ils vont pas voir des gens, des imams, des gens raisonnés, et des gens comme toi, qui a fait des études. Moi, j'ai vu ton parcours, hein, j'ai suivi ton parcours, j'ai lu tout ce que tu m'as envoyé, je me suis aussi un petit peu renseignée sur Internet, etc. Et vraiment, j'étais, disons, agréablement étonnée par ton parcours, vraiment, et je tenais à te préciser. Donc, tu as fait des études dans ce domaine-là, tu sais de quoi tu parles, tu connais l'histoire de la religion, tu connais l'histoire tout court, hein, déjà, et en même temps, eh bien, tu en connais beaucoup plus que certains qui le racontent n'importe quoi. Et tu as raison de dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est à toutes les sauces. On peut pas terminer une phrase sans y mettre de la bondieuserie et du haram et du halal, etc. Voilà, tu regarderas ma vidéo aujourd'hui. J'ai fait une vidéo. Vraiment, on parlera un petit peu des faits de société chez nous, dans les pays du Maghreb.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, on en parlera tout à l'heure, vraiment.
Je continue si vous me permettez.
Je te laisse continuer.
Parce que là, comme dit un grand réformateur, Malik Ben Nabi, il dit quoi ? Il dit c'est la paralysie spirituelle. Quoi, là, c'est la paralysie spirituelle ? C'est-à-dire, ma religion est bien, je fais de la prière, je vais à la Mecque, nous sommes Ramadan, nous sommes l'Ahor, le reste, je m'en fous. Eh bien, la religion, non, chers amis. La religion, c'est les actions. Al-af'al, alladina amanu wa amilu salihat, c'est-à-dire ceux qui croient, ils font du bien. Les rituels, salat ou zakat, ce n'est pas le moyen, c'est le but pour faire du bien. Le bien, faire du bien, c'est ça, non, c'est pas ça le musulman. Le musulman, il fait du bien. Tu laves une pierre de la rue, c'est fait du bien. Il dit salat, ça veut dire elle t'interdit le mal et elle t'ordonne le bien. Non, c'est le bien, c'est les actions. C'est ça le but. C'est bien des rituels, mais les rituels, c'est quoi? C'est pour toi, pour arriver à faire du bien.
Mais oui, mais c'est ça, c'est logique,
hein,
ce que tu dis.
Hein. C'est ça la rituel, ouais. Les rituels, les cinq rituels, les cinq piliers de l'islam. Pourquoi? Pour faire du bien.
Ben c'est ça.
C'est tout.
Et d'ailleurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, dans les... Bon, parce que le hadith, elle est vraie, elle est faux, etc. Mais il y a des hadiths où il est dit, quand on raconte l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on n'entend pas le fait qu'il faisait la prière, etc. C'est pas ça qui revient. On parlait pas de ça. On parlait pas des prières que faisait le prophète. Non, on parlait de ses actions, comme tu dis, les actes, les comportements. Et quand les femmes allaient le voir, parce que bon nombre qui nous écoutent, beaucoup d'entre nous, hein, il faut dire ce qu'il en est, eh bien, pratiquent beaucoup le sexisme, la femme soumise, etc., la femme inférieure et qu'elle se tait, et ta. On sait tout ça. Alors que le prophète lui-même, et lui-même demandait, n'est-ce pas, et tu me corriges si je me trompe, lui-même disait aux femmes, venez, me raconter vos histoires, dites-moi si on vous a manqué de respect, si on vous a, été injuste avec vous, et il était très dur avec les hommes qui étaient injustes envers les femmes.
Bien sûr, lui-même.
Donc, et aujourd'hui, eh bien, c'est tout le contraire. Et Namimet, on parlera tout à l'heure de Namimet, parce que il se passe des choses. Moi, je vois sur Internet, on m'envoie énormément de vidéos. Et j'en ai vu une cette semaine qui m'a vraiment retourné le cœur. Eh bien, concernant une femme, on en parlera davantage tout à l'heure. On va prendre des auditeurs, Yacine, si tu le permets. Mais vraiment, les Namimet, le mal qu'ils peuvent faire, les harcèlements, les méchancetés. C'est-à-dire quand on dit Namimet, c'est-à-dire que on s'abat sur certaines personnes, sur des femmes, sur leur comportement, sur parce qu'on juge de l'extérieur, tu vois, de l'extérieur. Alors que toute femme doit être respectée. Toutes les femmes, même les femmes qui se prostituent, j'ai envie de le dire. Pourquoi ? Parce que une femme qui se prostitue, eh bien cette femme-là, elle ne vivait pas dans le bien, dans le confort, et sans rien manquer. Et du jour au lendemain, par caprice, elle se dit si j'allais me prostituer ? Pas du tout. Parce que pour vendre, son corps, c'est que vraiment elle a été poussée à bout. Exactement. Qui est derrière ? Est-ce que cette femme, dans sa jeunesse, elle n'a pas subi l'inceste ? Elle n'a pas subi des viols ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tu comprends ? Exactement. Moi, je suis partie en Algérie il y a quelques semaines. J'ai vu une jeune femme de 24 ans avec un enfant de 3 ans dans la rue qui mendiait. Je me suis assise à côté. Les gens regardaient parce qu'ils trouvaient ça, c'était pas habituel. Assise. Je lui ai demandé sa permission. Elle était étonnée et je lui ai posé des questions. Pourquoi elle est arrivée là? Son mari est en prison, justement, Yacine. Ouais. En prison de, il a pris 7 ans parce que, il a fait des choses pas bien, il a trafiqué. 7 ans, ça faisait 4 ans qu'il était en prison, il l'a laissé, elle était enceinte. Sa mère étant remariée parce que son père est décédé. Donc, ce qui fait que sa mère, elle lui dit, écoute, moi, j'ai des enfants avec ton beau-père, il veut, voilà, une bouche à nourrir en plus et deux même avec ton fils. Il veut pas et voilà. Donc, elle rentre très tard le soir dormir dans un bout de couloir, sa mère traîne la basket. Le soir, le lendemain, elle repart très tôt. Mais je sois tout l'homme, elle a des clouled, mskina, alors, qui, voilà. Alors, tout cet argent, les gens, ça me houlait, hein. Voilà, qui se paye. Le hajj, ça coûte très très cher aujourd'hui, entre 4 et 10 000 euros. Le hajj, pour donner, excusez-moi, hein, les Saoudiens qui sont loin d'en avoir besoin, et construire des mosquées qui en a de plus en plus à profusion, alors qu'on peut se le faire. Eh bien, tout cet argent, on pourrait le mettre à contribution pour créer des lieux pour ces femmes qui sont dans les rues. J'en ai vu beaucoup en Algérie cette fois. Des vieilles femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ont été jetées à la rue, et des femmes jeunes avec des enfants, des veuves, des répudiées, des tout ça. Pourquoi on ne monte pas des lieux, des endroits, des foyers comme ici en France, Khalk Blad al Kfar ou la Blad al Kfar? Alors moi je fais partie d'eux, hein, parce que Hado Rahul Jinnah, il y a le palais de la femme dans le 11e, c'est le premier foyer qui a été créé, des foyers pour les enfants, pour les femmes, etc., des pensions. Voilà, Hna, ils sont à la rue, il n'y a personne pour s'en occuper, et les gens, non, il y a un truc qui ne va pas. Et là, il serait bien quand même qu'on puisse parler de tout ça. Et d'accord, c'est très bien, Yassine, je suis très heureuse que tu sois là ce soir. Mmh. On va marquer une courte pause, Giovanni, qui est en train de, le pauvre, de s'arracher les cheveux. Allez, oui, une petite pause et on revient tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Oui, c'est une émission qui se veut sans tabou, et vous l'avez compris, depuis de nombreuses années. 01 53 48 3000, et nous avons le bonheur d'avoir, et la chance surtout d'avoir Yacine ce soir avec nous, qui est aumônier de prison. Et comme nous, il passe la langue de bois. Voilà. Merci, Yanis. Yacine, pardon, parce qu'on a Yanis ici. Ouais, ouais, donc ça va être un peu compliqué. On accueille une auditrice fidèle. Le standard, hein, je te montre.
D'accord.
Le standard, regarde, il affiche complet. Il n'y a plus de place.
Non, il n'y a plus de place.
Alors regarde, tu peux regarder, il est complet.
Ah, c'est bien ça, c'est bien.
Voilà. Très bien.
Ça prouve que c'est un sujet très, très intéressant.
Mais bien sûr.
Et ça concerne tout le monde.
Absolument.
Et je suis certain que tout le monde est conscient de ce phénomène.
Voilà.
Les gens, ils sont conscients. Mais il faut parler.
Ben oui.
Il faut parler.
Et elle va parler.
Il faut pas se taire.
Voilà. Et c'est Sabrina de Grenoble. Bonsoir, Sabrina.
Oui, bonsoir, Marouz. Comment tu vas?
Ah, écoute, je vais bien. Et toi, Sabrina, comment vas-tu?
Oui, ça va, oui. Bonsoir, Yacine.
Bonsoir. Ouais. Comment allez-vous? Ça va bien?
Oui, ça va.
Avec cette chaleur.
Ah,
ça va bien.
Cette chaleur, elle nous a tué, cette chaleur.
Mais elle est bien, elle est à Grenoble, l'Isère, dans le frais.
Oui, on a les montagnes, mais bon.
Ouais.
Ouais.
Alors, ouais. Sabrina, tu voudrais nous parler de quoi ce soir? Tu as entendu
Alors, je vais poser plusieurs questions à monsieur Yacine, l'aumônier.
Oui.
Et je voulais juste te dire aujourd'hui, par contre, le conseil général a pris la décision d'interdire le burkini dans les piscines.
Oui, on a entendu. C'était à prévoir puisque ça fait partie des réglementations.
Il y a des réglementations à respecter. Voilà. Et puis voilà,
les Bermudas pour les hommes, tout ça, on le sait.
Voilà, on vit en France, il faut respecter les lois.
Non, mais pas qu'en France, partout. J'étais en Algérie il y a quelques semaines et j'ai appris que là-bas, dans les hôtels, les prisons, les piscines, c'est partout la réglementation internationale. Alors, la question à monsieur Yassine.
J'aurais voulu savoir dans les dossiers, est-ce qu'il a de droit de parole sur les dossiers de jugement des prisonniers musulmans?
Le dossier du quoi?
Des prisonniers.
Sur des dossiers de jugement.
Alors, est-ce que tu peux formuler le droit de parole, c'est-à-dire, parce qu'il n'est pas avocat.
Dans les dossiers qui ne sont pas encore passés en jugement, est-ce qu'il a le droit d'avoir.
Son opinion, c'est ça ce que vous voulez dire.
Voilà, son opinion.
C'est-à-dire avec son avocat, c'est-à-dire il voit son avocat régulièrement.
Mais est-ce que toi, Yacine.
Non, moi je ne rentre pas dans les dossiers. Non, moi je suis pas avocat. Hein, mon rôle c'est apaiser les tensions. Voilà, apaiser les tensions morales et c'est-à-dire et spirituelles, parce que je fais des prêches. Hein, j'ai fait des prêches du vendredi et j'essaie de les orienter dans le bon chemin. C'est-à-dire mon objectif. Qu'il sort, il ne revient plus.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors tout ce qui est juridique et droit, tout ça, c'est pas mon rôle. Ils ont des avocats, d'accord, des très bons avocats. Il y a des personnes qui sont très qualifiées.
C'est un soutien moral, un soutien spirituel, la véritable spiritualité.
Voilà. C'est la véritable spiritualité. Et moi, je suis pragmatique, c'est-à-dire je suis réaliste. Moi, je leur dis toujours il y en a. Vous avez compris dans mes propos, il y en a qui vivent dans les imaginaires. C'est-à-dire, il dit moi, Shaitan Hu Ali Jabhali Hinaya, j'ai fait une bêtise, c'est pas de ma faute, c'est la faute de ta Shaitan. Et moi, j'essaie de leur expliquer, de prendre vos responsabilités. C'est-à-dire, vous avez fait une bêtise. Il faut reconnaître cette bêtise. À tort ou à raison, moi je suis pas là pour juger, hein. Mais pour vous reconstruire, il faut accepter la peine. À tort ou à raison, je répète, je suis pas juge. Moi je sais que vous êtes là. Alors si vous êtes là, c'est pour quelque chose. Maintenant, est-ce que vous êtes innocent, vous n'êtes pas tout ça? Je peux pas rentrer dans ces détails. Mais essayez de. Et en plus, je les insiste, j'insiste pour ça, qu'ils vont étudier. Il y a des bibliothèques, livres. Il faut se renseigner. Il faut pas trop djibli kitab tal Qur'an, djibli tal. Non, c'est bien le Qur'an, c'est bien.
Mais pas que.
Il y a des livres, il y a plein de livres. Je connais des gens qui travaillent dans la bibliothèque, tout ça. Ils sont des gens charmants. Ils ramènent des livres de tout, c'est-à-dire de tous les livres, c'est-à-dire de tous les titres, tous les domaines. Et moi, j'essaie je vais vous raconter une histoire vraie. J'avais un détenu que je voyais, il parlait beaucoup. Moulin café. Yadar. Bon, il parlait pas. Tu parles, pourquoi tu n'écris pas? Tu écris. Alors, il m'a regardé des grands yeux. Il m'a dit, moi, j'écris. Écris et je fais des fautes. Tu fais des fautes. Et comment j'écris? Je te ramène un stylo, une feuille, tu écris. Mais j'écris quoi? Ce que tu me dis. Ta vie dans la prison, les visites, tout ça, tu écris. Je lui ai ramené quelques feuilles, un stylo, il a écrit 3 pages en ce moment.
C'est incroyable. Voilà. C'est magnifique.
C'est ce genre de choses. Il faut pas les rabaisser. Il faut pas leur dire prisonnier, tu as fait une bêtise, tu ne.
Mais c'est ça, les accompagner, c'est ça, tu les accompagnes.
C'est-à-dire, il faut leur donner un espoir de la vie. Mmh. C'est-à-dire, il faut leur donner. C'est-à-dire, si tu es en prison, rien n'est fini. Ça veut dire, ouais. Ça veut pas dire que les portes ils sont terminées. La vie elle continue.
Voilà, exactement.
La vie continue. Tu vas passer un an ou deux ans, mais tu vas sortir avec des bagages.
Mmh. Voilà, c'est ça.
Profite.
Et, oui. Oui, voilà. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui relèvent de la psychiatrie?
Il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, c'est vrai, mais ils sont bien suivis. Il y a des psychiatres. Ils sont très bien suivis. Il y a des psychiatres, il y a des assistantes sociales, il y a l'aspip là de l'insertion. Non. Écoutez, moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent de l'administration pénitentiaire. Mais je peux vous assurer, madame, ils travaillent.
Voilà.
Ils font un travail formidable. Moi, j'ai rencontré des sociologues, j'ai rencontré les gardiens, tout ça. Mais ils travaillent fort. Ils ont un travail formidable. Mmh. Pas facile. D'accord. Il ne faut pas croire. Ouais. Parce que c'est détenu. Ils sont en prison. Il y en a qui, c'est pas tous des anges. Il faut dire la vérité. Mais il faut gérer tout ça.
Il faut gérer tout ça.
Ah oui, il faut gérer.
Par contre, vous ne suivez pas que des musulmans. Il y a aussi des athées, des chrétiens. Vous pouvez les suivre aussi.
Moi, nous, on suit les gens qui nous demandent. C'est-à-dire, c'est par demande.
Ils vous demandent, voilà.
Ah oui, qui nous demandent. Ouais. Moi, c'est-à-dire, ils écrivent une demande. Ils la donnent au gardien. Le gardien, il nous transmet la demande. Et nous, on voit les gens à la demande.
D'accord. Et depuis 30 ans... Je voulais savoir, Monsieur Lemonnier, par rapport à la religion, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un changement? Parce qu'il y a 30 ans, peut-être qu'il y avait moins de prisonniers.
Oui, justement, je voulais parler justement de je vais un peu non ça.
Non, il y a pas de souci, il y a pas de souci.
C'est-à-dire, il faut, c'est-à-dire quelques, il y a, je vais trouver, voilà, c'est-à-dire. Comment elle a commencé cette histoire de religion dans les prisons, c'est l'affaire, si vous rappelez, l'affaire Khaled Kalkal. Voilà, rappelez-vous bien de ça.
Waouh.
Alors l'affaire Khaled Kalkal, c'est un jeune délinquant de la banlieue lyonnaise qui aurait découvert l'islam en prison. Comme par hasard.
Oui.
Alors avant de rejoindre les rangs de J algériens et de participer à la vague d'attentats en 95.
Oui, effectivement.
Alors, et malgré les zones d'ombre de sa trajectoire de radicalisation, il est devenu l'incarnation emblématique des conséquences des délitaires de l'islam carcéral. Et là, les médias, ils sont emparés de cette histoire. Les jeunes, ils vont se nourrir en prison. L'islam. Il faut pas croire, madame, que les prisons fabriquent les terroristes.
Ouais.
Il faut pas croire. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple concret. Comment expliquer alors qu'aucun des terroristes du Bataclan ne soit passé par la prison? Personne. Que la majeure partie des personnes incarcérées pour des faits terrorisme soient dénuées de tout antécédent judiciaire.
D'accord.
Et ça, c'est prouvé.
Oui.
On peut chercher partout. Hein. Ça, c'est des études qu'ils ont fait.
D'accord, très bien.
Ou encore que la plupart des jeunes partis en Syrie ou candidats aux djihadistes ne soient jamais passés par la casse-prison.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est incroyable, on ne sait pas tout ça.
Voilà, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, considérer la religion en l'espace l'islam déterminant de la radicalisation carcérale est tout aussi simplificateur que prétendre que la prison fabrique du terrorisme. Ça, c'est pas vrai.
C'est ce qui se disait.
Oui, c'est ce qui se disait parce que les gens...
L'information est circulée dans ce sens. D'une manière, on va dire, qui passait comme ça. Non, c'était vraiment très flagrant. Oui, Giovanni. On a une petite pause, voilà, chers amis, c'est de la radio, donc on va marquer une courte pause et on revient avec Yacine et Sabrina. Juste après, on a Nadia de Troyes, on a Kavit et on a encore d'autres personnes qui sont en attente. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Confidence avec Yacine qui est aumônier de prison et qui aujourd'hui nous éclaire un petit peu du monde carcéral, hein, de ce qui se passe derrière les murs. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Alors Yacine, on est avec Sabrina, on va terminer avec Sabrina et puis tu es en train de répondre à Sabrina. Oui Sabrina.
Oui, je voulais juste te dire, voilà, non, mais je vais terminer vite fait. Oui. Que, voilà, je voulais dire à Monsieur Yacine qu'il fait quelque chose d'honorable, c'est tout à son honneur. Et que, comme je travaille dans une clinique, on a des aumôniers, nous aussi, musulmans et chrétiens, qui viennent voir les malades en fin de vie. On en a de temps en temps qui viennent, oui. D'accord. Et voilà, je voulais lui dire que, qu'il continue ses visites, son combat, et voilà, je le félicite. C'est quelque chose de bien, voilà. J'aime ces personnes-là qui vont vers les autres dans la souffrance. Moi, j'ai toujours respecté ces personnes-là. Merci. Voilà.
Même vous faites un métier très, très honorable, là, madame.
Oui, je suis extrêmement.
C'est pas aussi facile que ça.
Oui, je sais que de temps en temps, c'est surtout les fins de vie. Des fois, il y a des aumôniers musulmans et chrétiens qui viennent me rendre visite. Et
oui.
Voilà.
Oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, accompagner les. Personnes en difficulté ou en situation de vulnérabilité. Merci Sabrina.
Voilà, allez,
je te fais de gros bisous, à bientôt ma chérie. Merci, au revoir. Très sympathique notre amie Sabrina. Donc tu étais sur un sujet, Yanis, qui était intéressant. Je te laisse continuer. Donc on en était où?
Oui, c'est-à-dire je voudrais expliquer cette ignorance de la religion musulmane. Oui. Il y a beaucoup de surtout les autorités administratives, c'est-à-dire c'est une religion nouvelle qui apparaît en France, hein, il faut dire la vérité. Et quand il y a une religion, il y a une culture derrière, il y a des gens derrière qui pratiquent cette culture. Et que l'autre, il la connaît pas. Il n'est pas.
Tu me disais quelque chose là-dessus, justement, pendant la pause, et qui est très intéressant et très intéressante. Et j'aimerais bien qu'on partage, justement, cet avis, parce que c'est même plus qu'un avis, c'est une réalité, hein, c'est prouvé, puisque tu as étudié, la situation concernant la méconnaissance de la nouvelle vague, on va dire, de ces personnes qui sont dans les prisons actuellement. Voilà.
D'accord. C'est-à-dire, si on part il faut faire un petit retour, il faut regarder dans le rétroviseur, on dit.
Oui.
En l'espace de deux décennies, c'est-à-dire les années 90, c'est-à-dire 20 ans après 10, 10 après 20 ans,
oui.
L'islam est devenu une religion extrêmement importante.
Oui.
Ça c'est une réalité dans les prisons françaises.
Par le nombre.
Voilà.
Oui.
Alors, il est à présumer que le nombre de détenus se réclamant de la religion islamique ou la religion d'islam est, selon toute vraisemblance, supérieur à celui des autres religions ou à tout le moins concerne une très large fraction de la population carcérale. Il s'agit là d'un véritable bouleversement dans la composition de cette population, le code culturel. Là, on rentre dans le dur. Là.
D'accord.
Le type de conduite et les références symboliques des détenus posent bien des problèmes à l'institution carcérale. Les surveillants, souvent originaires des régions industrielles et l'Est du Nord, maintenant, ça a changé parce qu'ils ramènent les gens de la Martinique, Guadeloupe et tout ça. Et ça, je vais expliquer après. Ont du mal à comprendre cette nouvelle population. Ils ont du mal à comprendre
D'accord.
cette population. Qui n'a pas le même genre de comportement que leurs prédécesseurs, il y a à peine deux décennies, c'est-à-dire avant, il y avait d'autres populations.
Oui.
Je ne dis pas...
Oui,
oui. Voilà, excusez-moi. Il faut que je m'habitue
au micro.
Alors il y avait d'autres populations qui n'ont pas le même genre de comportement que leurs prédécesseurs il y a à peine deux décennies. Cela induit quelquefois une crise chez eux. Ils ne savent pas comment se conduire à leur égard et dénoncent des attitudes basées constamment sur le rapport de force. Ce que je vous explique.
Oui, tout à l'heure. Oui.
Les détenus musulmans, quant à eux, dénoncent l'incompréhension dont l'islam est l'objet dans le pays et le mépris dont ses adhérents pâtissent. Mmh. Et que ce soit de la part de l'institution carcérale ou de la société, l'ampleur du phénomène de l'islam en prison est mal connue. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas l'islam en prison, même ailleurs.
Mmh. Oui.
On ne dispose pas de statistiques fiables. Par exemple, le...
Quand tu dis mal connu, l'islam, est-ce que... Enfin, moi, la question, je me fais une auditrice lambda et je me pose la question suivante. Je me dis, est-ce que... Enfin, pourquoi ferait-on des différences entre les populations d'origine diverse?
Oui.
Moi, pour moi, je pense qu'un prisonnier, c'est un prisonnier, et que s'il est là, c'est parce qu'il a un prix à payer pour sa faute,
oui.
Et que on n'est pas là, c'est pas un hôtel où, eh bien, par exemple, bah, y a des, on va servir à manger, bon, on va servir à manger, ou alors on va, si tu veux, on va faire cas des origines culturelles, religieuses, des clients. Là, non, c'est pas des clients, ce sont des personnes qui ont fauté, qui sont là pour payer leur faute. Donc, pourquoi aller chercher à savoir ce que pratiquent les uns et les autres? La pratique d'une religion se faisant dans l'intimité. Un prisonnier n'a pas, justement, comme un autre, d'ailleurs, citoyen lambda à l'extérieur, n'a pas à mettre en avant sa pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Ça s'appelle du prosélytisme. Donc, il vit le moment du recueillement, il le vit, voilà, dans l'intimité, tranquille. Mais un prisonnier musulman, eh bien, est un prisonnier comme un autre, j'ai envie de dire. Il n'a rien de plus ni moins. Pourquoi essayer d'étudier, de chercher à comprendre, pas de privilégier, c'est pas le terme, mais de faire des différences. Si on commence à faire des différences dans les prisons, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que là, on le voit bien avec les piscines, machin, etc. Donc, qu'il soit méconnu, j'ai envie de dire, Yacine, peut-être une méconnaissance culturelle, peut-être.
Ben, ce que j'essaie de dire.
Hein, n'est-ce pas?
Oui, c'est
voilà.
Ça, voilà, c'est ça ce que je veux dire.
Voilà, ça, c'est peut-être culturel, en fait.
Oui, c'est,
hein.
C'est ça ce que j'essaie de dire.
Voilà.
C'est-à-dire, il y a des codes, c'est-à-dire, il y a des comportements.
Oui.
Il y a des comportements qu'une personne musulmane qui va se comporter d'une manière ou un autre, il va pas par exemple.
Voilà.
Je vous donne simplement dans les douches les citoyens musulmans. Les non musulmans ils se douchent nus, mais les musulmans
forcément tous ou parce qu'il y en a qui ont de la pudeur, non? Pas.
Et c'est ça le conflit, il est là.
Oui.
On rentre dans ce conflit. C'est-à-dire, les musulmans, ils disent non, on va pas prendre des douches nues.
Oui.
Et on prend
en fait, c'est culturel ce que tu dis.
Oui.
Parce que dans nos familles, on est très pudiques.
Exactement.
Ah, voilà. Même si on n'est pas pratiquant.
Moi, j'ai fait du sport en France ici. J'étais dans les salles,
oui.
Je rentre dans les vestiaires, je vois tout le monde nu. Alors bon, je sors, je vais courir.
En fait, c'est dans l'éducation.
Je n'embête personne.
Ouais.
Non, c'est-à-dire, nous, c'est vrai, on a tendance à mélanger culturel
voilà, et religieux. Voilà, et culturel, voilà, c'est ça.
On a tendance.
Et c'est comme ça qu'on a induit les jeunes en erreur.
Voilà.
Parce que, en fait, cette éducation plutôt culturelle, cette éducation qui est juste une histoire d'un pays à un autre, et même dans un pays, il y a plusieurs manières d'éduquer, hein, parce que il y a plusieurs cultures dans un même pays, donc on est tous différents avec nos différences. Mais ça a du mal à émerger, ça a du mal à être compris. Pourquoi, Yacine? Parce que tout simplement, eh bien, quand les jeunes disent non, non, moi, je suis musulman, chez moi, on fait pas ça et tout. Non, c'est pas parce que t'es musulman que tu fais pas ça. C'est parce que c'est ta culture. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Moi, je suis pas pratiquante, vraiment. Mais de toute jeune, quand il y avait des films à la télé où on sent qu'il y a un bisou qui arrive, par exemple, devant nos pères ou nos oncles, etc., ça y est, on s'en va. On regarde jamais les films en famille.
Oui, c'est clair.
Parce que nahashmo, parce que c'est gênant, parce que c'est dans nos traditions, c'est dans c'est l'éducation, en fait, tout simplement. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils confondent éducation avec religion.
Voilà.
Donc oui, non, c'est ma religion qui m'interdit. C'est pas ta religion, c'est écrit nulle part que tu regardes pas un film. D'abord, les films n'existaient pas à l'époque du prophète. Quand la religion est arrivée, donc le cinéma n'existant pas, on n'en parle pas dans le Coran. Donc ça n'a rien à voir, c'est juste une question d'éducation. Et l'histoire de pas se doucher avec machin, Oui, parce qu'on est pudique. Voilà, parce qu'il y a une pudeur, en fait. Quoique, dans les hammams, j'ai envie de dire, dans les hammams, les hommes, entre eux, ils sont pratiquement nus. Ah non, et non, les femmes, elles sont pratiquement nues, non? Ils ont fauta.
Non, non, hammams,
ils ont le fauta. Oui, d'accord.
Il y a toujours cette pudeur. Et c'est très important ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, c'est ça la complexité des choses.
C'est-à-dire,
c'est ça ce qui se complique. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les musulmans qui mélangent culture et cultuelle.
Oui.
C'est-à-dire dans le présent, c'est un peu spécial. C'est-à-dire, ils se couvrent derrière l'islam pour faire une force.
Ah oui, voilà.
Une force collective.
Oui.
Parce que avec cette force collective, ils peuvent revendiquer des choses, même par rapport à l'administration.
Ah ouais?
Ah oui, ils peuvent revendiquer, parce qu'ils sont en groupe.
Ah oui, d'accord.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire.
C'est
fort. Et les gardiens, ceux qui surveillent, ils n'ont pas encore compris quelle différence y a-t-il entre le culturel et le cultuel.
Ouais. Mais est-ce que justement le prisonnier l'a compris lui aussi? C'est-à-dire que le gardien ne comprend pas, mais celui qui est face à lui n'a pas plus de connaissances. C'est terrible.
Ça, c'est ça notre rôle.
Ben vous avez un rôle de...
Voilà, c'est ça
aïe,
notre rôle.
Aïe, 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 aïe.
C'est pour ça que vous...
un travail de titan.
C'est pour ça qu'ils nous ont recrutés.
Ah ouais, dis donc, c'est pas de tout repos.
Oui,
hein.
C'était pas facile.
Non.
C'est pas facile. Déjà, c'est pas facile que l'administration, parce que nous, autant qu'aumônier, pour avoir déjà l'agrément,
ouais,
il faut passer par le ministère de la Justice, il faut passer par le ministère de l'Intérieur,
ah oui,
il faut passer par les renseignements généraux.
Ah oui.
Déjà. Pour, on vous donne un agrément pour être un aumônier.
Ah oui, c'est
ça,
parcours.
Vous voyez, c'est un
c'est
parcours
très, très cadré.
Très,
hein.
Cadré,
ah oui.
Très cadré. Alors, quand nous avons une mission... Comment faire un équilibre? Parce que moi, je discute avec les gardiens, je discute tout ça. Ils me posent des questions. Comment je me comporte avec ça? Parce qu'ils font
ça.
Ah oui, oui, oui. Non, il y en a.
Sont,
ah oui,
ils cherchent. Perdus, ouais.
Ils cherchent à comprendre. Parce que ce prisonnier, il se comporte mal. Alors, j'essaie d'aller voir le prisonnier, lui expliquer que ne mélange pas la religion avec ton comportement. C'est-à-dire, c'est tout un travail, c'est ça. Et maintenant, actuellement, les autorités françaises, c'est-à-dire l'administration administrative, ils commencent à nous reconnaître.
D'accord.
Ils commencent à nous mettre en avant, parce qu'avant, c'était très, très difficile. Mettre un aumônier musulman dans une prison, c'est pas facile.
Je pense qu'ils ne prennent pas non plus au pif.
Non, ils prennent pas au pif.
À mon avis, il y a une enquête...
Non, mais ils ont compris, il y a une urgence.
Très profonde. Hein.
Non, mais ils ont compris qu'il y a
urgence, et en même temps, il faut que des personnes vraiment intègres.
Avant, il y avait des tensions. Pourquoi il y avait des tensions? Parce qu'on leur interdit de prier. Alors, les prisonniers sont en nombre, hein, c'est énorme, hein, il faut gérer tout ça. Alors, ils vont prier dans la promenade, tout ça.
Ah,
alors,
oui.
Bon, maintenant, on a ouvert des salles. Déjà, pas mal.
Il y a des salles.
Il y a des salles, Jamoua, tous les vendredis, on va faire une presse, des presses, Jamoua, ils viennent. C'est déjà pour eux un soulagement. C'est-à-dire, ils viennent, ils savent très bien qu'une fois par semaine, le vendredi, il y a l'imam, il vient. Et moi, je suis un peu pas comme les autres. Moi, je fais un débat. Je suis pas le type qui vient non. J'essaie de leur faire parler.
Ah oui.
Je leur fais parler, je leur pose une question. Qu'est-ce que tu penses toi?
Psychologue quoi.
Non, il faut les faire parler. Il faut qu'ils participent. Il faut que les prisonniers s'impliquent dans la
sorte de leur bulle en fait.
Voilà, ils sortent. Ce que j'essaie de faire, de le faire sortir de leur bulle. C'est pas viens écouter salé ayar rah la la.
Non, c'est bien.
Ça se passe pas comme ça.
On va prendre des appels si tu le veux bien. Donc on a Karim Danière, on a Faïza de Suresnes juste après. Bonsoir Karim.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bienvenue Karim.
Merci. Je sais pas, j'écoute le débat, alors après c'est toujours compliqué, hein, mais...
Ah bon?
Rien n'est compliqué.
Rien n'est compliqué, tout est simple, c'est le principe de l'existence, mais oui. Par moment, parce qu'au moment où j'ai décidé d'appeler, j'écoutais les interventions qui continuaient, Donc ça adoucit un peu, parce qu'à un moment, enfin, on parle de religion, et le fait religieux, il est respectable. Oui. Mais le principe de la religion, déjà, c'est a priori, d'avoir un comportement qui ne doit pas t'amener, dans la plupart des cas, en prison, déjà.
Ah non, mais là, oui, tu es dans le jugement.
Des cas,
là,
hein. Ça c'est oui, le jugement, ça peut arriver.
Non, mais tout peut arriver.
D'accord.
Tout peut arriver à tout le monde, mais...
Ouais, mais Karim, on n'est pas dans le jugement.
C'est pas ça
une question.
Je vais laisser la parole si on n'est pas dans le jugement.
Non, c'est pas ça.
Mais à un moment, j'ai l'impression que... espèce de dire, oui, les pauvres...
On ne dit pas les pauvres. Personne ne dit les pauvres.
Ça peut arriver à tout le monde, mais...
Ben, ça peut arriver. Ça peut arriver.
Bien sûr que ça peut m'arriver. Personne n'est à l'abri.
Un accident, voilà.
Exactement. Mais quand tu regardes le... Il faut regarder la réalité, et l'aumônier, il la connaît lui-même. Au moins, il a eu l'honnêteté de le reconnaître.
Pratique,
image, il a dit, voilà, le fait musulman, aujourd'hui les gardiens le prennent plus en compte, avant il existait moins. Mais il y a des taux de récidive importants.
C'est plus haut, ça vient de plus haut, parce que les gardiens, ils suivent les ordres, hein, tout
bien,
simplement, hein, n'est-ce
bien,
pas
mais bon, en tous les cas, il y a des taux de récidive importants. Je peux comprendre que dans la vie, c'est pas une ligne droite, il peut nous arriver pour plein de raisons, mais il y a un moment, voilà, quand tu vois des taux de récidive élevés, et tu te dis, où sont les victimes? Enfin, à un moment, on a l'impression que les pauvres, ils sont en prison.
Non, mais on n'est pas là à dire les pauvres ou pas, on sait très bien ce qui se passe. Mais c'est des gens qui sont jugés dans les tribunaux de la République. Nous, on n'en fait pas partie. On est là, surtout pour essayer de comprendre comment, par rapport au comportement à l'intérieur, trouver les solutions. C'est son rôle, et d'ailleurs, il a un travail vraiment remarquable, Yacine, d'être à l'intérieur, d'être justement, de faire tampon entre l'extérieur, l'intérieur, et d'apporter de l'apaisement, surtout, tu comprends.
Bien sûr, mais ce qui est dommage, c'est
Il y a des gens qui dépriment à l'intérieur, il y a des suicidaires, il y a des... Voilà.
Je comprends.
C'est des êtres humains avant tout, hein, Karim, nous, faut pas oublier, c'est des êtres humains.
Mais si on se rapproche, et pourquoi pas, de la religion, de sa pratique religieuse, parce qu'on est en souffrance, parce qu'être emprisonné, je pense qu'il n'y a rien de pire dans l'existence, être privé de liberté.
Non, ce que je voulais dire,
il faut que les gens... pas recommencer. Enfin, il y a des taux de récidive majeurs en délinquance qui font que je dis à quoi ça sert.
Non, c'est-à-dire, là, vous êtes dans le jugement, vous savez, moi, j'ai connu des gens qui ont été
Dès qu'on donne son point de vue, on est dans le jugement, sinon...
Oui, moi, j'ai connu des gens qui sont...
La Suisse, elle a un point de vue. La neutralité, c'est un point de vue. Donc, tu peux ne pas être d'accord avec moi.
Non, je suis pas d'accord, j'essaie de comprendre votre point de vue. C'est-à-dire, la prison, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des délinquants. Moi, j'ai rencontré des gens pour un retrait de permis. Moi, j'ai rencontré des gens pour des
pensions alimentaires.
Des pensions alimentaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'il n'y a que des dealers, des criminels, tout ça. Vous voyez, à présent, c'est un tout. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens. Tu dis, je peux le rencontrer dans le marché. Il a... À un moment donné de sa vie, il a conduit une voiture, il a fait un accident, qui partait pas le permis. Vous voyez, c'est un tout. C'est-à-dire, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac.
Comme c'est votre métier, là, ce que vous me vendez, franchement,
il vend rien du tout.
Mais
ce que vous me dites, je l'entends. Mais il faut revenir aux proportions. Bien sûr que moi, et bien, Vanessa a la raison. Demain, je peux malheureusement commettre quelque chose qui m'amène en prison. C'est pas ma culture naturelle.
Mais
majoritairement, ceux qui sont en prison, c'est quand même des gens qui commettent de manière récurrente des actes de délinquance.
Voilà. Alors donc, nous,
Après, il y a le papa qui refuse de payer sa pension alimentaire, ça arrive.
Ça
arrive que tu renverses quelqu'un, et malheureusement, et t'as un peu fêté ta soirée, taux d'alcoolémie, homicide, tu mets en prison.
D'accord. Alors, Karim, vraiment. Donc,
c'est pas programmé parce
J'invite l'aumônier justement pour qu'il nous explique son rôle. Il nous l'a bien expliqué. Et lui, son rôle, c'est pas de juger ou de dire oui, ils ont récidivé.
Oui, je juge pas non plus. J'ai aimé ton intervention quand tu as dit, et ça vaut pour toute la société. Pourquoi on aurait, et il l'a très bien expliqué, un comportement particulier pour une communauté musulmane en prison?
Oui, ça c'est. Finalement. Voilà. Oui.
La prison, c'est un lieu de privation de liberté.
Oui.
Pour des gens, quelques erreurs. Omar m'a tué, c'est une erreur judiciaire et il y en a.
Oui, mais
on a parfois du mal à la reconnaître. Mais il y a plus de coupables que d'innocents en prison en moyenne.
On est d'accord, mais est-ce que ces gens-là, on va les laisser tomber?
Non, je pose une question.
Il est là pour les soutenir. Ils ont besoin de soutien aussi.
Je vous pose une question. Il y a des gens qui ont failli, à un moment donné, ils ont été tentés.
Oui, ils ont basculé. Ça.
Est-ce qu'on va les laisser tomber?
Absolument pas. Absolument pas.
C'est ça notre rôle.
Mais c'est pas que je défends, moi. Je défends pas de les laisser tomber. Mais je défends, enfin, je sais pas que je défends, ni je m'en fous d'ailleurs dans l'absolu, mais c'est de se dire pourquoi on va vers une pratique en prison
religieuse
d'une religion qui normalement te donne le droit à la faute, parce qu'on n'est que des humains, mais on peut fauter, on peut faire des erreurs. Mais le principe, c'est de s'améliorer.
Non, mais
par contre, comme c'est votre métier, vous savez qu'il y a des taux de récidive dans la délinquance.
Je sais tout ça.
Donc, je prie, et voilà, comme si je m'absous, et je sors, et je recommence. Et à un moment.
Oui, mais c'est un temps minime, ça, c'est très minime. Mais là, il faut se mettre dans le contexte. La religion, c'est pas la prison, c'est pas un lieu où on va apprendre la religion. C'est pas un lieu, c'est pas le Hajj.
C'est
un lieu parce que vous êtes dans un endroit.
C'est pas une cure, hein.
Voilà.
C'est pas une cure.
C'est bien, mais vous l'avez dit vous-même. C'est un endroit hostile,
comme tout endroit hostile.
On se regroupe par communauté pour avoir une force.
Il y en a qui ont commis des crimes odieux. Moi, je vous dis, il y en a.
Des amis qui ont fait de la prison, ils sont des gens magnifiques. Ils ont fait des petites conneries. Des machins, c'est pas le.
Oui.
Ça, je le comprends complètement, je suis pas de langue jugement, mais il y a un moment.
Non, c'est juste qu'ils ont besoin de soutien, c'est tout. Maintenant qu'ils récidivent pas, nous on aimerait que personne ne récidive, bien entendu. Mais maintenant, mais bon, le fait qu'il y ait des personnes comme Yacine pour soutenir ces personnes et pour leur redonner de l'espoir, continuer.
Très utile.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est important. C'est bon pour eux, pour la société aussi, hein, Karim.
Bien sûr. Mais petite pensée aux victimes quand même, parce qu'on parle toujours
des gens qui sont en prison. Mais ça, c'est autre chose, là.
C'est un autre sujet, j'en suis d'accord.
Voilà, l'aumônier, comment ? Il s'occupe des prisonniers. Les victimes, malheureusement, il y a des victimes. Malheureusement, les victimes,
j'ai l'impression qu'on prend moins en compte la victime que le.
Bien sûr que oui. Mais les victimes, c'est pas le rôle de l'aumônier.
Non, je parle pas du rôle de l'aumônier, je parle plus généralement. Je pense qu'on parle toujours les pauvres.
Mais tu plaisantes ou quoi ? Est-ce que tu écoutes cette émission tous les soirs ?
Je l'écoute assez souvent.
Ah bon ? Alors tu vois bien, je parle beaucoup des victimes.
Toi, tu as toujours un avis. Je remets pas en cause, mais pensons quand même un peu aux victimes.
Je parle beaucoup des victimes.
Parce que
aujourd'hui, j'ai fait une vidéo.
Aussi, si tu as vécu une agression, ça, c'est quelque chose.
Oui, bien sûr que oui, mais là, c'est pas la question. Là, tu vois, c'est pas la question. Là, on invite un aumônier. Demain, si j'invite un psychologue, le psychologue, il va parler des victimes. Voilà.
Voilà.
Et si j'invite une présidente d'une association féministe, elle va parler des femmes violées qui subissent l'inceste ou de la violence conjugale, etc. Alors donc, tu comprends, chaque chose dans son contexte. Là, ce soir, en l'occurrence, on a monsieur Yacine.
Mais je voulais quand même dire.
Je connais.
Moi, j'ai été cambriolé.
Ah, mais ça, c'est Karim, ça. Oui, alors t'as été cambriolé.
Non, c'est Karim, c'est ce que je sens. Moi, j'ai été cambriolé chez moi. Mais
c'est horrible, ça.
Ça arrive tout le temps.
C'est horrible.
Cambriolé quand t'es pas là.
T'étais à la maison.
T'es un assureur. Et il y a ma petite fille dans la chambre.
C'est pas vrai.
Après, je suis désolé.
Comment ça s'est passé?
Je suis pas allé voir un psy, mais ça m'a traumatisé.
Comment ça s'est passé? T'étais à la maison? Comment ça s'est passé?
Je sais pas, oui, je suis à la maison, quelqu'un est rentré.
Et tu dormais?
Par ma terrasse, je dormais, j'entends du bruit. Bon, il se trouve que je vais courir derrière, mais il avait entrouvert la porte, il a sauté, moi j'ai tapé la baie vitrée, mais. À la limite, je m'en fous du matériel. Il me prend, je suis assuré.
Mais attends, tu as pas de volet, t'as pas des choses pour fermer parce que.
Si j'ai volé, il a fracturé. Tu fractures.
Alors que t'étais à l'intérieur.
Il y a du digicode. J'habite un endroit un peu sympa, machin. Mais le cambrioleur.
T'es en maison. Mais non, mais c'est bien de le dire pour que les personnes fassent attention.
Mais je trouve ça. Non, c'est horrible. C'est son attention. Non mais si, Georges Brassens, que j'adore, tu vois, il a écrit une chanson Stante au cambrioleur. Georges Brassens a démarré délinquant.
Et comment tu t'en es sorti?
Bah, je m'en suis pas sorti, mais je veux dire, c'est aussi traumatisant.
Il est parti, lui, donc, il a fui.
Oui, lui, il s'est barré, mais c'est pas grave, ça, l'assurance.
Ah si, c'est grave.
Bref, il m'a pas pris en soi. Non, mais c'est
le traumatisme, la peur. Ah, oui,
toi, voilà, quand tu sais que t'as, il y a quelques années, parce que ma fille était petite.
Oh mon Dieu.
Moi, c'est un truc, moi, je sais pas, ça m'a pas mis au point d'aller voir un psychologue, un machin, mais c'est une souffrance.
Bien sûr que c'est une souffrance. C'est abominable.
Voilà, ce mec qui m'a cambriolé, s'il s'était fait attraper, et moi, je souhaite pas qu'on lui mette 20 ans de prison, je suis pas Zemmour, hein. Mais s'il prend 2 mois avec sursis, c'est peut-être pas équivalent au stress que ça produit.
Ah ben, je suis d'accord avec toi, 2 mois, c'est... Non, ça mérite plus.
Non, mais je souhaite pas que le mec ait pris 20 ans, ça n'a rien à voir.
Ah, moi, je lui mets 20 ans. Il rentre chez moi, je lui mets 20 ans.
Mais
je mets 30.
Tu sais même pas comment ça peut se terminer, tu vois.
Ah, ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Tu as vu le monsieur ?
Il
y a un homme, il y a un bijoutier.
Dans toutes les conditions sociales, les machins. Moi, je suis pas d'une extraction riche.
Il y a un bijoutier.
J'ai jamais volé.
Il y a un bijoutier qui a tiré. Il a reçu.
Je suis pas dans le dîme. Je fais pas la prière, mais je vais pas voler.
Oui, moi non plus, je fais pas. Karim, il y a eu un...
De l'argent quand je suis arrivé avec de l'or et des cuillères.
Oui, tous on en est là.
J'ai travaillé, oui, la majorité. Tout le monde a travaillé. Là, tu vois, mais à un moment, je me dis, l'argent facile, il se paye. Hein.
Bah oui, la preuve, il y a la prison.
Et oui, parce qu'à un moment, c'est trop simple. Dans ces cas-là, tu te dis, ma mère, elle s'est fait traîner. Mais elle n'est pas la seule, tu vois. Elle s'est fait traîner dans la rue à 75 ans.
Ah,
mais
c'est arrivé à ma mère aussi, je sais ce que c'est.
Par des jeunes pour lui voler, elle avait 20 euros dans son sac. Ils l'ont traîné au sol.
Pareil, moi aussi, c'était la même chose.
Ce genre de personne, tu veux, j'ai pas de compassion. J'ai pas envie de me dire, oui, mais c'est bien qu'on leur parle. Franchement, j'ai pas envie non plus qu'ils prennent des peines incommensurables. Je remets en proportion. Mais je me dis, finalement, aucune raison qu'on leur aménage un truc. On va t'écouter, ta parole. Ah oui, c'est vrai, peut-être tu as souffert quand t'étais jeune.
Karim, c'est des êtres humains.
Qui n'a pas souffert.
Oui, mais malheureusement.
Les gens qui ont souffert vont pas traîner une maman de 75 ans par terre.
Je sais, tu écoutes pas, Karim. Écoute-moi.
C'est colère.
Je suis d'accord avec toi, ma mère, avec la même chose. Ce que je suis en train de te dire, que ça ne leur enlève pas leur humanité, ça reste des êtres humains. Et on essaye de les sauver. On va pas les enfoncer.
Attends,
t'en as parmi eux qui
sont. Mais comment tu peux traîner une femme de 75 ans par terre ?
Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi.
Ça, pour toi, c'est de l'humanité.
Mais c'est arrivé à ma mère. Tu rigoles ou quoi ?
Oui, je sais. Non, mais je sais que ce n'est pas arrivé.
Ben voilà, c'était horrible. On a eu la frayeur de notre vie.
Tu vas toujours me dire.
Mais ça reste des êtres humains. La râle,
j'ai connu une époque où ça arrivait pas, ça.
T'as, si.
Toujours du vol depuis que l'homme est l'homme.
Quoi ?
Mais pas les anciens.
Quoi ?
Pas les anciens.
Mais alors je crois que tu vivais pas sur Terre à ce moment-là. Tu sais quoi ? Nous vivons peut-être l'époque la moins violente. C'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes. Paris était il y a des décennies en arrière.
Paris était coupe-gorge. Non mais. Alain Boer, je le connais, c'est un spécialiste de la criminologie, il a raison. Paris était un coupe-gorge.
Bah, bien sûr.
Et était un coupe-gorge il y a 150 ans. Moi, je te parle de l'époque contemporaine. Moi, quand j'avais 20 ans, dans mon quartier, il y avait on les appelait les voyous à l'époque, bon, bref, des mecs qui faisaient des petits séjours en prison, des machins. Mais par contre, mes parents pouvaient passer. Jamais il leur aurait pris la tête.
Parce que c'est tes parents, ils les connaissent, mais les parents des autres,
ils respectaient le cheveu blanc. Aujourd'hui, ils respectent plus rien. Que t'aies 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils en ont rien à foutre. Alors, quand ils en ont, j'aime pas globaliser, mais beaucoup. Franchement, il m'est arrivé des situations où tu te dis, mais des gamins de 12, 13 ans, mais si jamais tu surréagis sur leur truc, mais ils peuvent te tomber à 10 dessus, normal. Mmh.
Puis il y a aussi beaucoup de drogue.
À mon époque, non.
Il y a beaucoup de drogue. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ça aussi.
Et voilà, tu vois, il y a un moment, ça a dérivé. Mmh. Alors, ne pas le reconnaître, on peut toujours faire l'autruche et se dire c'est
bien
pas
sûr
vrai.
Que oui.
Non, c'est
bien sûr.
Mais, et c'est pas, je ne veux pas pointer, mais dans nos communautés, il y avait même chez les voyous un respect quand même de l'âge. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils peuvent te trouver un homme de 70 ans.
C'est
une réflexion.
Non, mais c'est les mœurs, ils ont changé. Les comportements, ils ont changé.
Oui, voilà. Mais
avant, il y avait des mafieux, mais ils avaient de l'honneur. On connaît tout ça.
Il y a toujours eu des voyous depuis que
il y avait toujours. Mais avant, les voyous, ils avaient de l'honneur. Ils respectaient les gens. Maintenant, ça a changé. Ah, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire?
On va prendre des appels, voilà, Karim.
Voilà. Allez.
Et merci de votre appel.
Je t'embrasse, Karim. Allez,
rien,
bisous.
Et puis, bon courage.
Merci à toi. Merci. Et reviens vite. À bientôt. Il est sympa. Je veux bien, Karim, parce que c'est toujours. Comment on appelle ça? Du poil à gratter, là, ou je sais pas quoi. Ah ouais, tout le temps, tout le temps. Mais c'est bien parce qu'il anime les débats.
C'est bien, c'est bien.
Ouais, j'aime bien. Donc, on a Faïza de Suresnes. On a Nadia de Troyes. Mais avant, on a Giovanni qui me fait de grands gestes. On a la pause. Bon, Giovanni, allez, on se pose. Et Faïza, tu passes juste après. Ok, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Confidence, émission sans tabou et sans langue de bois. 01 53 48 3000 avec Yacine. Yacine, aumônier de prison, qui est là pour répondre à vos questions. Donc venez lui poser des questions. Je sais que vous avez énormément de questions à poser. Et j'invite les familles. Voilà, les familles de personnes justement qui se trouvent en situation de d'incarcération. Donc venez poser vos questions à Yacine. Des questions que vous n'osez peut-être pas poser à vos enfants, à vos parents, à vos proches. Eh bien, venez ce soir lui poser. Il a toutes les réponses. Yacine, voilà, il est là pour vous. Et on le remercie d'ailleurs. On a Faïza. Faïza nous appelle de Suresnes. C'est une auditrice fidèle de chez Fidèle. Faïza, bonsoir. Allô, Faïza? Faïza? Elle est où, Faïza? Faïza, tu es où? Allô, allô? Elle n'est plus là? Elle n'est plus là. Nadia de Troyes. Bonsoir, Nadia.
Oui, bonsoir, Vanessa. Ça va?
Eh bien, écoute, ça va. Et toi?
Ben, oui, plus ou moins, c'est... Bref, j'ai vu un cauchemar. Bon, j'ai écouté le sujet de ce monsieur Lemonnier, je respecte.
Bonsoir, madame.
Hein. Et je connais personne. J'ai aucune question à vous poser, monsieur. Moi, j'appelle juste...
Pas de problème.
Pour autre chose. La première, excusez-moi, parce que je suis un petit peu déboussolée, c'est concernant en fait la police nationale. C'est un sujet un petit peu... Ça grince les dents pour certains. J'ai été victime d'un vol. Et j'aimerais... quand vous avez affaire à des gens, vous connaissez les auteurs de vol, vous connaissez les complices, hein, et vous êtes plus en fait victime, vous êtes... dans l'autre étape, en fait.
Alors, Nadia, alors Yacine, c'est compliqué de comprendre. Alors, Yacine est aumônier de prison. Un aumônier de prison, c'est un homme, tout d'abord, qui apporte du soutien, de l'accompagnement spirituel, hein, d'accord ?
Oui, oui.
Voilà, et aussi notamment un peu psychologique, donc qui est là par sa présence et qui aide, et les vendredis qui aussi accompagne pour quand à la prière, tout ça. Enfin, il est là surtout pour apaiser les esprits, voilà, c'est ça son rôle, tu vois. En fait, c'est presque de l'humanitaire, tu comprends ce que je veux dire ? Voilà. Pour pas que le problème s'amplifie, etc. Donc il est là pour désamorcer.
Oui, et je
voilà le rôle d'un aumônier de prison.
Et malheureusement, je n'ai pas de questions à poser à ce monsieur concernant les personnes qu'ils ont fait des délits, qu'ils ont.
Oui.
J'ai aucune connaissance là-dedans.
Oui.
Bon, c'est vrai que quand on fait un délit, on est puni, c'est tout à fait logique.
Oui.
Il y a certains aussi, bon, qui ils devraient plutôt suivre leur conscience au lieu de suivre des groupes qui les entraînent à faire des conneries. Hein. C'est pas compliqué. il est courageux, c'est vrai qu'il était... Je connais rien dans ce système, mais ce qu'il fait, c'est bien, parce qu'il porte beaucoup de choses à des gens qui sont dans le besoin, psychologiquement, physiquement. C'est vrai que bon, d'être entre quatre murs, c'est pas évident. C'est pas la liberté, hein. Vous avez juste quatre murs avec quelques moustiques qui se baladent par ici, par là. Personne à qui parler. C'est bien. Félicitations, monsieur, parce que sincèrement, moi, je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Hein.
Nous aussi, c'est-à-dire, nous aussi, on travaille pour que les gens ne rentrent pas en prison aussi.
Voilà.
Le vrai travail, c'est ça. Hein. Après, quand ils rentrent, c'est une autre étape. Mais on fait tout le travail en amont. C'est-à-dire, les gens, il ne faut pas qu'ils rentrent en prison.
Voilà, pour éviter des récidives.
Voilà, pour éviter les, les récidives, les d'autres, on rentre dans une autre étape de prison. Mais le plus important, c'est-à-dire notre mission, c'est de travailler en amont. Il faut pas que les jeunes rentrent en prison, les jeunes ou autres, hein. C'est-à-dire, et c'est ça notre but. Et que même s'ils sont en prison, ils sortent pour qu'ils ne reviennent plus.
Oui, certes, mais avec les nouvelles générations de nos jours, ils sont tellement... on leur fait un lavage de cerveau, ils sont attirés ou par l'argent, le quart du temps, c'est ça, hein, c'est l'argent, c'est la drogue, ils savent même plus par moment où ils habitent. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, la nouvelle génération, ils sont plutôt obsédés par les choses qui bougent. Qu'avant, c'était plutôt l'école, la maison, respect pour tout le monde. Maintenant, il n'y a plus de respect, quoi. C'est que vous avez des gamins de 12, 13 ans qui vous insultent pour un oui, pour un non, enfin, pour rien, et pour le plaisir d'insulter les gens. Et c'est lamentable, mais bon.
Mais c'est vrai ce que vous dites, mais le travail aussi, il y a le travail des familles, il y a le travail de la société. C'est-à-dire, il faut pas les laisser. Quand on voit un gamin de 10 ans, moi personnellement, j'ai rencontré des gamins qui de 10 ans qui transportaient de la drogue. Voilà, ils travaillaient avec les dealers, mais ça veut pas dire que je vais les laisser. Il faut en parler, il faut discuter avec leurs parents. C'est-à-dire, si on critique et on parle et on croise les bras et on ne fait rien, c'est-à-dire rien ne bouge, c'est-à-dire on n'avance pas. C'est-à-dire, il faut des gens, il faut des associations, il faut bouger, il faut parler, il faut faire quelque chose.
Il y a tout un travail.
Dit oui, parce que ça, parce que ceci, parce que cela. Voilà. Non, c'est pas comme ça. L'être humain a été toujours pareil. Il a été toujours pris par l'argent, ça a toujours existé. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup. Parce qu'il y a les médias, c'est il y a ça, tout ça. Avant, il y avait pas ça. Mais il y avait toujours des délinquants, il y avait toujours des voleurs.
Voilà,
il y avait
toujours... De tout temps, et dans toutes les communautés du monde.
Voilà.
Et j'ai même envie de dire à notre auditrice, madame, à Nadia, on peut pas faire de généralité, Nadia. On peut pas. Parce que.
Non, mais tu t'es. Parce que. Sincèrement,
oui.
Il y a pas de. Moi, je parle d'un principe.
Oui.
L'éducation vient par les parents.
Oui, ça on sait. Mais oui, l'éducation des parents, et dans une famille, il peut y avoir des différences. Même dans une même éducation, Nadia, tu le sais très bien. Il y a des enfants qui sont plus fragiles que d'autres, qui sont plus, disons, à même à être happés par je ne sais quel, disons, discours, comme on dit, les chants des sirènes. Dans une même famille, tu as sur, par exemple, allez, on va dire trois enfants, t'en as deux qui sont parfait. Tout se passe bien, impeccable. Et puis, t'en as un qui bascule. Va comprendre pourquoi. Alors que les parents ont donné la même éducation. C'est pour ça qu'on peut pas faire de généralité. On peut pas accuser les parents d'être de mauvais parents. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière les barreaux, qui ont de très bons parents, qui n'ont pas failli à leurs devoirs. Mais, parfois, eh bien, il y a les mauvaises rencontres. Les mauvaises influences, c'est ça. On a une pause, Nadia. En tout cas, merci, Nadia. Je t'embrasse.
Merci beaucoup, madame.
On a une pause, ma chérie.
Un petit message avant.
Rapide.
Je voudrais passer un petit message à Dominique Allais, l'association de Solidaires et Chats de Troyes.
C'est quoi comme association?
Association pour les chats.
Pour les chats?
Oui, Dominique Allais, en fait. Le problème, c'est qu'il est en pleine déprime. Et je sais qu'il écoute tous les jours Beurre FM. Et j'aimerais lui faire passer juste un message. Il va falloir que tu te relèves, mon petit, même si tu as 75 ans. Et les chats comptent sur toi dans le quartier pour manger. Donc, c'est pas le moment de dormir. Voilà, c'était juste...
Ah, mais écoute, c'est bien dit. J'espère qu'il est à l'écoute. On t'embrasse, Nadia. Merci encore. 01 53 48 3000. Une courte pause et on accueille Faïza de Suresnes qui est là, qui est de retour. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant.
Les plus grands Malem Gnawa du Maroc vous donnent rendez-vous pour le Gnawa Festival Tour. Tout au long du mois de juin 2022, retrouvez les Gnawa et les musiques du monde pour des fusions inédites. Du 3 au 24 juin à Essaouira, Marrakech, Casablanca et Rabat. Info et billetterie sur festival-gnawa.net.
Confidence, l'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Yacine, aumônier de prison, qui nous a fait l'honneur d'être présent avec nous et qui reviendra. Hein. Yacine, tu pars quand en vacances? Sans indiscrétion. Est-ce que tu seras là en juillet?
J'espère bien, oui, je serai là en juillet. Oui. Le mois d'août peut-être, mais le mois de juillet, je serai là.
On essaiera de trouver une date voilà, qui convienne à tout le monde.
Inch'Allah, oui.
Alors, on accueille Faïza, nous appelle de Suresnes. Bonsoir Faïza.
Bonsoir, tu m'entends?
Oui, très bien, ben, tout à l'heure. Ah. Faïza.
Ouais, je sais.
Et tu entendais?
Je suis là, moi je t'entendais. Oh,
bah alors, qu'est-ce qui se passe? La technique pas. Parfois, dis donc.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu nous as fait, Giovanni? C'est pas toi? Bah, t'as rien touché?
Il voulait pas que je passe, Giovanni.
Non mais écoute, sanction.
Bonsoir Yacine.
Bonsoir madame.
J'ai appelé parce qu'en fait, moi, c'est pour le même sujet, en fait, que, enfin, par rapport aux personnes incarcérées.
Oui.
J'ai appelé pour toute autre chose. Je voudrais avoir un renseignement, peut-être que vous allez m'aider ou pas, concernant, en fait, les personnes qui sont en fin de peine et qui recherchent un travail. Est-ce que, je m'explique, est-ce que dans les pénitenciers, dans les prisons, il y a des organismes comme on a actuellement pour le Pôle emploi ou les Cap emploi pour les personnes en situation de handicap? Je m'explique encore. Je travaille dans une entreprise qui s'occupe de personnes en situation de handicap, mais on a aussi ouvert une structure d'insertion. Actuellement, on a déjà une personne qui porte un bracelet électronique, hein, et normalement, Inch'Allah pour lui, dans un mois, je récupère une personne qui a été incarcérée pendant que je l'ai embauché, en fait.
Très bien.
Il a fait une petite bêtise avant et je l'ai embauché. Il a été très honnête, mais malheureusement pour lui, il a été jugé 2 ans de prison et doit ressortir bientôt avec un bracelet électronique. Ma question est, vous m'entendez?
Oui, on entend très bien.
Oui.
Ma question est, parce qu'actuellement on a tous une pénurie pour trouver des gens qui veulent vraiment travailler, est-ce qu'il y a des organismes auprès vers qui on peut aller pour pouvoir prendre contact avec eux, leur demander effectivement s'il y a des personnes en fin de peine dans un mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois, voire 6 mois, qui veulent retravailler et que nous on les remette dans le monde du travail.
Oui, oui. Alors, vous tombez du ciel. Hein. Nous, on cherche des personnes comme vous.
Voilà.
Vraiment, vous tombez
du ciel.
Vous tombez du ciel parce que nous c'est ça, notre travail. Notre mission, c'est ça. Est-ce que vous avez des métiers spécifiques ou vous cherchez des gens spécifiques?
Tout à fait. Alors, en plus, nous, ce qui nous intéresse, parce que, comme je disais, on a une structure de personnes en situation de handicap et forcément, avec leur handicap, ils ne peuvent pas faire tous les métiers.
D'accord.
Parce que parfois on demande, mais effectivement il y a un métier maintenant qui sort du lot depuis le Covid qui s'appelle factotum. Je m'explique encore.
Factotum,
c'est une personne
qui sait tout faire.
Voilà.
Oui,
faire de la plomberie, de la.
Oui. C'est est un polyvalent quoi.
Et puis il y a des handicaps. Tout dépend de l'handicap. Tu m'avais dit une fois.
Non. Alors ça c'est par rapport à l'handicap, mais là c'est une autre structure.
Ah oui, d'accord.
Qui est de l'insertion, et l'insertion on prend les personnes, les prisonniers. Les personnes qui sont en fin de droit, le RSA. Et moi, les prisonniers m'intéressent beaucoup. Comme je dis, on en a déjà un et demi, parce que malheureusement, on attend le jugement de l'autre personne, qui doit normalement sortir dans pas longtemps, le 30 juin, de ce que j'ai compris, il passe pour savoir s'il peut avoir un bracelet électronique. Et de là, nous on avait tout fait. Mon patron avait été à la police pour dire qu'effectivement, il allait l'embaucher. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Les précédentes personnes étaient un peu entre guillemets, je veux pas juger parce que j'aime pas trop dans le jugement, mais ils étaient un peu dans le jugement, et ça peut arriver à tout le monde parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien et qui a fait une petite bêtise parce qu'il était un peu bourré, et voilà, il a poussé son meilleur ami qui est décédé. Donc voilà, il a pris pour homicide involontaire 2 ans.
Oui, c'est une grande bêtise.
Et ça peut arriver à tout le monde.
Hélas, oui, c'est un accident, malheureusement.
C'est un accident malheureux.
Ce qu'on disait tout à l'heure, des accidents terribles.
Bah voilà. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on l'a suivi parce que vraiment c'est un gars exceptionnel.
Ouais. Ouais.
On a eu tous un coup de cœur pour lui et on espère vraiment que le.
Vous avez envie de l'aider. Ben oui.
Non, mais c'est très bien.
Je reconnais bien Faïza, là. Ouais. Faïza au grand cœur.
Je l'ai embauché avant. Mmh. Effectivement, il a été très honnête. Il m'a dit, voilà, je passe en jugement, qu'il espérait que ce soit considéré comme un accident, un banal accident, entre guillemets.
Oui.
Mais bon, finalement, il a été incarcéré.
Est-ce que, en
sortant, enfin, quand ils sont déjà là, pareil, la personne qu'on a pris, qui a un bracelet électronique, il s'est présenté à nous, il était déjà sorti. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des organismes auprès qu'on puisse appeler en leur disant, voilà, est-ce que vous avez quelqu'un qui sort bientôt, qui, voilà, c'est la démarche. Je ne sais pas vers qui aller.
D'accord, je peux vous orienter. C'est très.
Je peux te mettre en contact.
D'accord. Laissez-moi vous coordonner.
À ce moment-là, oui, comme ça, on va pas prendre l'antenne pour
voilà.
les autres.
Laissez-moi vous coordonner.
Je vais m'en occuper. Voilà, ils sont sur et l'écran.
Vous êtes
en région parisienne?
Oui, oui, je suis en région parisienne et je suis dans les administrations de l'Île-de-France, quoi.
D'accord, parce que nous, principalement, c'est que dans l'Île-de-France.
Hein. C'est formidable. C'est formidable.
Il n'y a pas de souci, madame.
Donc, il n'y a pas de souci, Faïza. Je te remets les coordonnées de Yacine. Hein.
Oui, et puis même, tu peux donner à Yacine les coordonnées.
Et je donnerai les tiennes. Voilà. OK. Bien. Parfait. Okay.
Parfait. Ben, merci, Vanessa.
Merci beaucoup
Yacine,
de votre appel.
Bonne soirée.
Et j'espère que beaucoup comme vous, ils vont nous appeler. Allez. Parce que là, on a besoin de vous, vraiment.
Oui.
Et moi, j'ai besoin d'eux.
Ah bah voilà,
il y a pénurie de personnes, donc
j'ai besoin d'eux.
Moi, je galère pour trouver des gens, donc.
Non, il y en a vraiment. C'est-à-dire, il faut taper dans la bonne porte. Il y en a.
Bon, bah, c'est cool alors.
Très bien, merci beaucoup.
Si on peut t'aider mutuellement, c'est bien.
Merci beaucoup, madame.
C'est le but.
Merci à vous. Bonne soirée.
Merci, Vanessa. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous. Oui, c'est formidable.
Ça, c'est bien.
Ah, oui, vraiment, parce que, tu vois, ce soir, cette émission, elle a été quelque part porteuse, parce que. Voilà, il y a un lien qui va se créer entre Faïza et Yacine, hein, et toi Yacine, qui va faire que vous allez aider des personnes. Toi qui justement tu luttes pour la réinsertion, parce qu'on parle de réinsertion là,
c'est
le but de ta fonction. Et Faïza, elle est prête justement à ouvrir son cœur, ses bras, son entreprise, puisque elle est cadre au sein de cette entreprise. Elle avait déjà appelé à plusieurs reprises concernant les personnes en situation de handicap. Elle nous a expliqué comment que ça se passait, etc. Donc formidable. Voilà, tu vois, il y a toujours un lien, il y a toujours quelque chose. Et cette radio, eh bien, elle est toujours, comme je le dis, au service des auditeurs, des gens, de mettre en lien pour pouvoir s'entraider. C'est ce qui est important.
Maman, on a besoin des gens comme Faïza. Voilà, ils peuvent nous aider, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire, ils peuvent aider les prisonniers, parce que il y a beaucoup de prisonniers, quand ils sortent, ils savent pas où ils vont. On va les aider quelques semaines. Après, ils sont dans la nature. Après, les gens, c'est temps, il y a des récidives, il y a tout ça. Mais imaginez quelqu'un qui est emprisonné pendant des années, coupé de la société, et peut-être coupé de sa famille. Bon, on va en parler après.
Oui.
Il est réduit à un numéro d'écrou, c'est-à-dire vous êtes numéro tel. Quand il sort, il n'y a rien qui se passe. Il va où ce type-là?
Il est perdu dans la nature.
Il est perdu dans la nature. S'il a une famille, ils vont le recueillir. Comment ils vont le recueillir? Parce que même cette famille, elle doit être formée. Il doit être formé parce qu'il y a un décalage. Lui, la vie, elle s'est arrêtée le jour où il est entré en prison. Sa vie, elle s'est arrêtée là. Mais les familles, ils ont continué à vivre.
C'est ça.
Il y a un décalage.
Oui.
C'est pour ça. Il faut former. C'est-à-dire, il faut former ces gens-là. Il faut former les parents et il faut former les détenus aussi.
Eh oui, les parents.
Pour que le lien se passe bien. C'est-à-dire, il se passe en harmonie. C'est ça notre but. Voilà, c'est ça.
Ça fait partie de.
C'est ça notre but, c'est comment former les moi je me bats surtout pour les femmes isolées et les femmes monoparentales. c'est-à-dire comment recueillir, comment accepter, d'ailleurs, comment, comment recueillir un fils ou un mari qui était coupé de la réalité, ah, et oui. comment former l'autre pour accepter.
Ben oui.
C'est-à-dire pour lui, c'est...
Et puis l'accompagner et l'aider, c'est pas évident.
L'accompagner parce,
parce que les familles, l'épouse, par exemple, entre-temps, elle a dû faire face, eh bien, aux responsabilités, voilà, hein, aux responsabilités de la maison, du foyer, les enfants, etc. Voilà, donc, et après, je veux dire, c'est peut-être aussi quelque part, entre guillemets, encore une autre responsabilité, une autre lutte de remettre sur les rails cet homme qui a passé des années en prison, qui n'est plus dans la réalité du quotidien. Donc ça peut aussi être une entrave dans le fonctionnement du couple. C'est terrible, hein. C'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça.
Hein.
Là, tu nous mets sur le cas de divorce à la sortie.
Ah oui, oui, même avant. Hein,
même avant.
Parce que vous avez une famille qui fonctionnait normalement.
Oui.
Ah, il fonctionnait normalement.
Oui.
D'un seul coup, le mari, il a été arrêté pour des faits qu'il a fait. Hop, il rentre en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a pas de loyer. Il y a pas de père qui s'occupe des enfants. La femme, elle va se retrouver seule.
Ah oui.
Vous savez, c'est terrible pour.
C'est le monde qui s'écroule. Là.
C'est le monde qui s'écroule. Ah oui. Et le problème, c'est, je voudrais bien en parler de ça. Est-ce qu'on peut dire la vérité aux enfants?
Oui.
Est-ce qu'on peut leur dire que votre papa, il est en prison. Ouais. Comment on va leur expliquer?
Oh là là là.
Moi, j'ai des cas, là, j'ai des cas,
oui.
que les enfants, ils refusent de voir leur père.
Ah oui?
Ah oui, parce qu'on leur a menti. Il dit oui, il va travailler, il travaille là-bas, il travaille, machin, truc. Mais à un moment donné, elle va comprendre.
Ouais.
Elle va comprendre qu'il est en prison.
Oui. C'est pour ça que les psychologues préconisent de dire toujours la vérité aux enfants,
hein, toujours,
pour les maladies
toujours,
et tout ça.
Toujours.
On a Hadja Ali qui nous appelle du 77. Bonsoir Hadja Ali.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Ali. Bonsoir. Bonsoir.
Vous rappelez, je vous avais appelé il y a à peu près en 2019.
Ah peut-être.
Et même, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire.
Mm-hmm.
Même il y avait à cette époque-là un aveugle qui vous appelait. À Villemomble.
Oui. Richard.
Voilà.
Richard, tu vois, je me souviens, hein, même.
Moi.
Richard, un auditeur fidèle qui appelle d'ailleurs encore de temps en temps. Richard, qui fait un peu d'humour de temps en temps. Et c'est quelqu'un de très, très bien, de généreux. Oui.
En fait, moi, je vous appelais parce que ça faisait longtemps. Et comme votre émission. Elle dure, je sais pas depuis combien de temps elle existe.
Oh ben ça fait pas mal d'années, oui. Quand on aime, on peut
voilà.
pas.
Exactement.
Oui.
Et je vous ai appelé vraiment par hasard parce que je suis tombé, j'étais en train de naviguer sur la radio.
Oui.
Et j'ai entendu Vanessa, confidence, et je me suis dit, je vais appeler Vanessa. Et en fait, je vous appelais parce que, vous savez, j'étais dans une situation très difficile.
Ah oui.
Et,
c'était quoi ta situation? Quelle était ta situation à l'époque, Hadja Ali?
J'étais à la rue.
T'étais à la rue? Ah, mon Dieu.
Voilà. Même, je sais pas vous rappeler, l'auditeur, là, Richard.
Ah oui, il t'avait hébergé, je crois.
Voilà.
Ah oui, ça me revient, il t'avait hébergé. Oui. Parce que on avait lancé un appel, Moi, je me souviens, parce que tu m'avais crevé le cœur, moi, ce genre d'histoire, ça me fait fondre. Je me souviens de ça, absolument.
Voilà. Mais avec la patience et la persévérance...
Et ça se passe bien maintenant pour toi?
Ah ouais, bah ouais.
Oh, mon Dieu, Alhamdoulilah. Tu vois, la patience.
Exactement, la patience et la persévérance.
Oui. Et tu en es où aujourd'hui? C'est ça qui est important.
Aujourd'hui, ma situation est stabilisée. Et,
mon Dieu.
Voilà, quoi. Mais de toute façon, Dieu, il nous a fait. Mais on n'est pas tous à la même éloge.
Eh bien, c'est. Oui.
Parce qu'il y en a que. C'est d'avance, quoi. C'est leur Alors oui, il y a les tracés d'avance. C'est comme ceux qui sont nés avec une cuillère en argent.
Ah ben c'est ce qu'on dit. Alors je vais te dire, voilà. Allez, je vais te contredire. Ouais. Écoute-moi bien. Ouais. Je vais te contredire parce que c'est pas toujours vrai. Parce que tu sais, et je vais te dire, est-ce que tu crois aux accidents de la vie? Ça existe, n'est-ce pas? Regarde, bien par exemple, le Covid est arrivé. C'est un accident de la vie, le Covid, n'est-ce pas? Exactement. Pendant 2 ans et demi, on a été paralysé, on n'a pas bougé. Combien sont décédés? On connaît tous des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Moi, je connais beaucoup de médecins, des infirmières, j'en ai autour de moi.
On a beaucoup, même voilà, au moment, j'ai des
proches. Écoute-moi, écoute-moi bien. Eh bien, beaucoup de personnes sont décédées. Et parmi eux, ils avaient beaucoup de projets. Ils sont nés, comme tu dis, pour certains, avec une cuillère, comme on dit, en argent dans la bouche. C'est des personnes qui avaient leur vie, entre guillemets, toute tracée. La vie, elle est pas tracée, c'est faux. Chaque jour est un nouveau recommencement. Et ces personnes qui avaient, entre guillemets, au regard des autres, une vie tracée, eh bien, avaient tout. Possédaient tout. Ils étaient propriétaires, déjà, tout jeunes, etc. Ils avaient tout. Le Covid est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, parmi eux, malheureusement, hélas, quelle tristesse, beaucoup sont partis, sont décédés. On les a vus. Les hôpitaux étaient chargés. Ils ont ramené même des, comment on appelle ça, des camions frigorifiques pour mettre les dépouilles parce qu'il y avait plus de place dans les morgues. Donc, riches. Esmane, il y a des gens qui étaient riches. Oumet, ils sont morts. Il y a des gens qui sont riches. Ils ont des Ferrari, des grosses voitures. Et, ben, ils ont des accidents. Et ils mourent. Alors, tu vois ce que je veux dire? Le pauvre meurt et le riche meurt. Voilà, c'est pour ça que je te dis, Dieu nous a mis à la même enseigne. Face à la mort, face à la maladie, il n'y a pas d'injustice. Maintenant, il y en a, ils ont des parents qui sont riches, donc c'est un peu plus facile pour eux à la naissance, on va dire. Mais après leur parcours, tu ne connais pas. Qu'est la maladie? Qu'est les accidents? On ne sait pas. Il y a combien de personnes qui ont des statuts, on les voit qu'à la télé, et qui ont perdu des êtres chers. Regarde, on avait un président de la République qui s'appelait Jacques Chirac, paix à son âme, l'Ayahmo. Cet homme, il a été malheureux toute sa vie parce qu'il avait perdu la perle de ses yeux, sa fille. Et t'en as d'autres comme ça, des combien qui sont partis comme ça dans la nature, qui sont morts, qui ont perdu des êtres chers. On est tous à la même enseigne, riches comme pauvres. Les rois, les sultans, les présidents de la République, ils meurent pas. Ils ont pas des personnes autour d'eux qui meurent. Mais oui, on est à la même enseigne, Hadj Ali, je t'assure. Dieu n'est pas injuste. C'est nous qui sommes injustes, mais Dieu n'est pas injuste. Face à la maladie, il a pas fait le tri. Tu comprends ça,
Roya? D'accord, mais la vie, elle est bizarre quand même. On sort d'un trou pour retourner dans un trou. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens.
Ah, non, ah oui, Hadek, c'est toi qui penses ça. Mais peut-être qu'il y a un sens que tu connais pas, et quand on sera plus de ce monde, on le saura. Rallah subhanahu, qui sait? Attends, tu pars pas parce qu'on a une petite pause. D'accord? On marque une courte pause et on... Non? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on arrive à la fin! Ah, tu me dis qu'on arrive à la fin? Oh mince, on avait... Oh, c'est dommage. Eh ben, écoute, le mot de la fin, je le laisse à notre ami Yacine. On n'a pas vu le temps passer, Yacine.
Oui, ça va se...
Alors, Yacine, ça passe très vite, mais tu reviens le mois prochain.
Voilà, Inch'Allah, je te laisse dire
ce que tu as envie de dire.
Je voudrais lancer un message aux mères qu'on les appelle les mères courage. C'est-à-dire, on dit souvent qu'on est en admiration pour les femmes qui viennent voir leurs enfants incarcérés 3 fois par semaine. On les appelle les mères courage, mais attention, elles sont toutes aussi fragiles. Elles doivent penser à elles avant tout pour tenir le coup et pour pouvoir aider la personne incarcérée. Mmh. Notre rôle est de dire aux femmes de se préserver, de faire attention que la prison les dévore.
Ah oui,
c'est vrai. Il faut faire très attention. C'est malheureux, je sais. Moi, je vois les femmes qui viennent dans les parloirs, les mamans, tout ça. Mais il faut pas que la prison, c'est-à-dire vous consacrez votre vie que dans la... Je sais que
c'est dur pour une maman.
C'est très dur d'avoir des enfants en prison. Ouais, ça, je suis conscient. Mais il faut pas.
Elle souffre plus que son enfant.
Voilà, elle souffre plus parce que les enfants, ils sont exigeants. Ils veulent qu'ils viennent.
Ils veulent qu'ils viennent les voir
3 fois par semaine.
Oh là là.
Et il faut pas justement, il faut pas être dévoré par ça.
Mon Dieu.
Voilà ce que je voulais dire. Et c'est merci bien. Pour tout. Et vraiment, c'est un plaisir de venir ici. Vraiment, on se sent tout de suite à l'aise.
C'est un plaisir partagé. Puis merci
beaucoup
à toi aussi de consacrer ton temps, parce que c'est pas évident de venir le soir comme ça et bien de laisser sa famille, de se déplacer, de venir pour les auditeurs. Donc préparez vos questions pour le mois prochain, chers amis. Donc on est le 21, ce sera à peu près la même date si tu veux bien.
Il y a pas de problème.
Ah, tu me donneras tes disponibilités, comme ça je l'annoncerai à l'antenne.
Ça marche.
Voilà, comme ça préparez vos questions et puis les parents et puis aussi les personnes qui sont sorties, hein. Alhamdoulillah, hein, alaykoum, hein. Wala itlaq sarah lirhum encore à l'intérieur. Donc préparez aussi vos questions, venez poser vos questions à Yacine. Donc ce sera aux environs des mêmes dates au mois de juillet, hein, si vous voulez bien. D'accord. Merci Giovanni, on se dit à demain.
Merci à toi, juste avant qu'on se quitte.
Joyeux anniversaire.
Attends, déjà on va expliquer le contexte de la journée. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique.
Ah d'accord.
Aujourd'hui, c'est la fête de la musique.
Oui.
On fête la musique, on fête aussi l'été.
Oui.
On va faire beau, on espère.
Ouais, oui.
Et on fête aujourd'hui l'anniversaire d'une personne à qui je voulais dire que j'aime
très fort.
Qui est
très cher.
Qui m'est très cher à mes yeux.
Oui.
Et je m'en rends compte au fil des jours. Et notamment depuis que je suis arrivé dans la région parisienne, notamment pour travailler pour Beurre FM. Et je voulais embrasser très fort ma maman.
Isabelle,
exactement. Et je voulais lui dire voilà, que je l'aime très très fort, même si j'ai pas forcément l'occasion de lui dire. Mais là, voilà, je lui dis devant la France entière et même devant le monde, voilà, lui dire que pour moi, c'est la personne la plus importante à mes yeux et que j'aime très fort. Voilà.
Ah ben, qu'est-ce que ce beau, bel hommage, bravo.
Ben, Elisabeth, on vous embrasse tous alors et bon anniversaire.
Voilà, joyeux anniversaire, Isabelle. En tout cas, vous avez un charmant garçon. Vraiment, il est adorable. Nous, on l'aime ici. Il fait partie de la famille. Depuis qu'il est entré ici, c'est que de la joie, du bonheur. Et il nous apporte tous les jours de sa bonne humeur, de son sourire. Il a un visage toujours avec le sourire. Voilà, j'ai jamais vu Giovanni ne pas sourire, vraiment. Et tout le monde l'aime ici, à Beurre FM. Il a tout de suite été adopté par la famille de Beurre FM. Et on le lâche pas, Isabelle. Donc, Isabelle, je sais que vous êtes à Lens, mais il a une autre maman, elle est ici. Hein. De temps en temps, je pense un petit peu à lui. Hein. Couscous.
J'ai toutes mes mamans. Maman Vanessa, maman Dima.
Voilà, exactement. On l'aime très fort. Joyeux anniversaire, Isabelle, encore une fois. Une longue vie à vous. Hein. Voilà, et plein de bonheur, plein de bonnes choses et de belles surprises avec Polo.
Et les jeunes, prenez soin de vos mamans. Sur...
Voilà, exactement, bravo.
Exactement.
Voilà, bravo, exactement.
Bravo,
les mamans, c'est
bravo.
Ce qu'on a de plus cher. Et d'ailleurs, Yacine vient de. Bah, c'était le mot de la fin de Yacine, hein, les mamans.
Ah, les mamans, c'est très, c'est
voilà.
Très important.
Très important,
c'est important.
Hein, pour ceux qui sont justement incarcérés.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Moi, j'ai vu des adultes avec. Quand on les voit, on croit qu'ils sont un peu. Mais quand on parle de leur maman, ils pleurent.
Alors justement, moi je m'adresse souvent à eux, tu sais ici, parce qu'il y en a qui de temps en temps qui appellent parce qu'ils ont des téléphones. Appelez les jeunes vers le 21 le mois prochain. Moi je l'annoncerai avant Yacine sa présence. Appelez les jeunes parce que je sais que de temps en temps vous appelez. Je sais que vous avez des téléphones et vous m'appelez de temps en temps. L'autre fois on m'a appelé du mitard. Enfin j'ai appris ce que c'était que le mitard. Voilà, on m'a expliqué. Donc appelez pendant mon ramadan, vous m'avez appelé. Donc appelez, il y a pas de souci, vous pouvez poser vos questions et puis ça peut vous soulager aussi. Et puis je vous ai souvent parlé de vos mamans et c'est peut-être ça qui va vous donner, qui va vous booster et l'envie justement de vous en sortir. Faites-le pour vous, mais faites-le surtout aussi pour vos mamans, pour que plus jamais aucune maman ne verse une larme. Voilà, c'est ça qui est important. Yacine, le mot de la fin.
Bah, je vous remercie beaucoup. Et bon anniversaire à la maman de Giovanni, qui s'appelle Elisabeth. Et je passe le bonjour à mes enfants, voilà, que je les salue beaucoup. Je sais qu'ils m'écoutent là. Ils enregistrent plus.
Ah oui.
Pourquoi tu as dit ça? Il faut... Bon. Et merci beaucoup encore une fois. Vraiment, on se sent en famille ici. Vraiment, quand on rentre ici, on est vraiment à l'aise.
Tu es chez toi.
Et Vanessa, beaucoup, je vous remercie beaucoup. Et vous avez compris que c'est un sujet très important.
Oui, absolument. Alors, est-ce que tu as une adresse mail, quelque chose pour te joindre
pour
les auditeurs?
Oui, je vais vous le donner tout de suite.
Voilà. Alors, donc, alors qu'est-ce que c'est? Alors, on va le dire vite à l'antenne avant la fin.
Alors, c'est Itahar, Y-Tahar.
Alors,
Y-Tahar.
Itahar. Y.
Tahar. Je m'appelle Tahar Yacine.
Y. Voilà. Tahar. Y. Tahar. Tout attaché. Hein.
Voilà, tout attaché. 713.
@gmail.com.
Ouais.
Alors c'est Y-T-A-H-A-R. Y-T-A-H-A-R. Y. Tahar. Attaché.
Voilà.
713@gmail.com.
Voilà.
Alors vous pouvez lui envoyer des mails. Il vous répondra. Il est comme ça, il est sérieux, donc il vous répondra. Et puis le jour où tu as, voilà, si tu peux avoir un, peut-être un téléphone en plus, un numéro.
Je peux vous le donner.
Ah ben on le donne, voilà, on y va. Alors le numéro de téléphone.
Alors c'est le 07.
Voilà.
68.
Oui.
82. 64, 71.
64, 71.
Voilà.
07, 68, 82, 64, 71. Voilà.
Vous m'appelez comme vous voulez, je vous répondrai, vous me laissez un message, si vous avez des questions, si vous avez des messages à passer à vos proches, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous, on le fait.
Ah ben voilà, il a tout dit.
Voilà.
Voilà, il a un grand cœur, Tahar, et voilà, il est le pont entre vous, vos familles, et c'est ce qui est très important, et c'est le but. Voilà. Eh bien, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, chers amis. Je vous souhaite une belle et douce nuit, faite de beaux rêves. Et là, on va vous laisser avec Rayantologie. Vraiment avec des sons comme on les aime, de toutes les générations, hein, vraiment. Hein. C'est juste magnifique. Moi, de la voiture, j'écoute et je suis sûre que vous allez aimer. Voilà, Rayantologie pour la nostalgie. Et moi, demain, je vous donne rendez-vous à partir de 11h, hein, déjà le matin, de 11h à midi pour vos petites annonces. Notre premier rendez-vous, et le soir, confidence, bien sûr. 11h midi, demain, pour vos petites annonces. Allez, à demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.